vais vous expliquer simplement quelque chose de pratique que j'ai mis tout mon message sur des pages avec l'écriture grand pour que je puisse le lire. Parce qu'avec la Bible, parfois, avec les yeux, ce n'est pas toujours évident que je ne me trompe pas. Bon, je trompe déjà, mais bon. Donc, si vous voyez parfois certaines confusions entre les pages, bon, j'ai essayé de me tirer, de suivre les notes, parce que sinon, je risque de perdre le temps et dépasser le moment nécessaire pour vous, pour nous d'avoir la Sainte Cène ensemble. C'est un privilège, oui, mais c'est toujours une grande responsabilité de venir ou de se placer dans le pulpitre pour présenter un message, parce qu'on ne sait jamais, dans un sens, comment les gens viennent à l'église, peut-être avec quelque chose dans leur pensée qui le distrait, ou quelque chose bouleversant vraiment, quelque chose troublant. Même, je vous dis simplement comme ça, cette semaine, en rentrant dimanche soir, on a eu, je crois que c'était lundi matin, je me suis réveillé tôt et j'allumais l'ordinateur pour voir les emails. Souvent, nous avons des messages de nos enfants et tout ça. Et c'était ce jour-là qu'on a reçu un message en disant d'un de nos fils, « Voici les images de l'accident. » Je dis, « Quel accident ?» Je ne savais pas quoi. Donc, je commence à regarder, je dis, « Oh là là, et j'ai vu la voiture crabousser. » Bon. Et après, il disait, mais tout le monde va bien, personne n'a mal. Les deux hommes, nos fils étaient dans la voiture devant. Nos belles filles, dont une est enceinte de 5 mois, étaient sur le banc au milieu. Et les deux petits enfants étaient derrière. Et c'était juste derrière la voiture qui était toute cassée. Le vitre était tout radié. Donc, je me suis dit, alors, comment je dois prendre ça? C'est tout ce que je sais. On ne sait pas du tout comment ça est arrivé, comment ils vont ou non. Rien de tout. Et ma femme était toujours au lit, bon, parce que c'était déjà 6 heures du matin, donc je ne l'ai pas réveillée pour dire il y avait un accident, mais on ne sait pas quoi exactement, c'est tout. Donc, j'attendais, et puis après, j'ai cherché un autre lieu d'information sur un autre email que j'ai, et j'ai reçu un autre message de l'autre fils qui m'a expliqué tout ça se passait. Mais pour vous dire que tout ça nous a troublés toute la semaine, dans un sens, surtout au début, avant de savoir ce qui se passait plus. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie qui nous troublent. Donc, je dis ça pour vous dire que, en venant à l'église, parfois, nous venons, parfois avec des sacs vides, sans rien penser. Et parfois, on vient à l'église avec beaucoup de choses dans nos esprits, dans nos têtes qui nous troublent. Peut-être que vous avez quelque chose vous-même ce matin qui vous trouble déjà, et bon, si vous avez un sujet vraiment de prière, peut-être on peut prier pour vous, vous vous sentez vraiment dans la nécessité de prière, on peut le faire. Mais j'étais frappé tout à l'heure avec le verset qu'on vient juste de lire en Lévitique, le verset qui m'a frappé, c'était, bon, tous les versets étaient intéressants, mais c'est celui-là qui m'a frappé. En parlant de fait, si vous gardez mes ordonnances, Dieu nous a promis toutes ces choses. Et en lisant tout ça, il disait, Je ferai régner la paix dans le pays, et quand vous coucherez, rien viendra troubler votre sommeil. » Et je me suis dit, oui, d'accord. Parfois, on est troublé, n'est-ce pas, par des choses que nous laissons entrer dans notre vie, prendre place dans nos pensées. Donc, je voudrais nous réintroduire dans un autre moment de prière, demandant au Seigneur de nous bénir pendant ces moments. Prions, Seigneur. Seigneur, souvent nous venons par l'habitude à l'Église. Nous présumons, Seigneur, que on est là et nous attendons que c'est toi qui nous bénis. On présume que tu vas le faire. Parfois, Seigneur, nous n'avons pas préparé notre cœur, notre pensée, notre vie, de recevoir un message de toi qui est digne de notre louange, de notre respect, de notre attention, et pas uniquement en ce moment, Seigneur, mais à tout temps. Nous venons ce matin, Seigneur, sachant que nous avons besoin de toi. Mais Seigneur, peut-être nous n'avons pas fait l'effort d'ouvrir notre cœur à toi. Nous sommes pleins de nos pensées, notre esprit est rempli de nos idées. Nous avons calculé nos temps. Nous avons calculé notre vie même pour aujourd'hui, Seigneur, sans demander tes conseils. Seigneur, nous avons le privilège d'être parmi nos frères et nos sœurs en Christ aujourd'hui pour te louer, pour encourager les uns les autres. Mais je prie, Seigneur, ce matin que En entendant les voitures qui passent, imaginons toutes les gens qui sont dehors de l'Église aujourd'hui, pas l'Église physique, Seigneur, mais la vie spirituelle en Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ. Et parfois, Seigneur, nous avons l'habitude de passer auprès de ces gens sans y réfléchir, sans y prier, sans imaginer qu'ils sont perdus sans l'amour de Dieu. Ils n'ont aucun espoir pour leur demain, pour leur avenir. Seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils ont besoin de travailler pour avoir de l'argent, pour se nourrir, pour avoir un toit sur la tête, pour avoir les vêtements. Mais ils sont troublés, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas la paix. Ta parole nous enseigne qu'ils n'ont pas la paix. Et pour ceux qui sont plus malins, Seigneur, ils cherchent de faire le mal aux autres. C'est le désir de vivre. Parfois, c'est de faire le mal aux autres. Parfois, Seigneur, nous sommes troublés par les événements de notre vie et nous avons le recours de revenir à toi. Nous pouvons, comme nous avons chanté, Seigneur, nous pouvons placer nos fardeaux à tes pieds. Mais il y a des autres autour de nous, Seigneur, qui n'ont pas ce moyen. Ils ne te connaissent pas. Seigneur, dirige-nous aujourd'hui dans notre réflexion, dans notre pensée. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur et un cœur sensible à toi. Donne-nous, Seigneur, un cœur pour les autres. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir tous ceux qui sont perdus autour de nous. Donne-nous la parole, Seigneur, de partager l'évangile de Jésus-Christ, notre amour pour Dieu à cause de Jésus-Christ et l'œuvre sur la croix, le pardon de nos péchés, l'amour de Dieu. Donne-nous, Seigneur, la sagesse comment nous pouvons repentir devant toi, de reconnaître, Seigneur, d'être en accord avec toi que nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous péché, nous sommes privés de toi sans Jésus-Christ. Dirige nos pensées, Seigneur, ce matin, d'apprendre de toi ce qu'il nous faut pour te rendre gloire, pour te glorifier. Notre Père céleste, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je préparais un message aujourd'hui de partager avec vous plusieurs versets bibliques pour nous enseigner, pour nous rappeler, pour nous encourager et peut-être pour vous aider aussi d'ayez plus de conviction par l'œuvre du Saint-Esprit de besoin des autres. L'autre jour, on est venu pour chercher notre carte ce jour et on est arrivé à un moment que nous avons un petit chien chez nous maintenant. Donc, on s'adapte, pour prendre soin de lui. Et l'autre jour, on est allé à la préfecture pour chercher notre carte de séjour. On a pensé qu'on va emmener le chien dedans parce qu'on était là avant, on voyait des gens avec le chien. Mais en arrivant à la porte, un grand panneau, tout neuf, des chiens sont interdits. Donc, on ne pouvait pas entrer avec le chien. Donc, on a dit, bon, on choisit. Moi qui rentre le premier, c'est ça après. Mais le problème, c'était presque l'heure de fermeture. Finalement, on n'a pas eu le temps pour Sarah d'y entrer. Et en sortant de préfecture, Sarah m'a dit, tu sais, peut-être c'était quand même prévu par la main du Seigneur, préparé pour lui, parce que en gardant le chien là, j'ai rencontré une dame qui m'a beaucoup partagé des difficultés dans sa vie et le besoin dans sa vie spirituelle, si vous voulez. Elle a pu parler avec cette dame. Et elle a pensé quand même que c'était préparé par le Seigneur, que ça se passe comme ça. Hier soir, j'ai promené le chien. Dehors, oui, c'est notre vie, c'est le chien pour l'instant, hein, je vous assure, hein, c'est vrai. Hein. Et puis, c'était déjà tard, donc je voulais, on est en train d'entraîner, d'apprendre à marcher avec la laisse. Et j'essaie de le faire marcher tard le soir pour qu'il dorme toute la nuit. Et donc, et ça arrive, ça marche, mais c'était déjà 9h30, je suis en train de promener le chien dehors là. Et dans le parking, tout près de chez nous, j'ai rencontré une famille, pratiquement, bon, un couple avec le fils qui était assez grand quand même. Et pendant une heure et quart, j'ai pu partager ma foi. Il m'a posé beaucoup de questions. J'ai pu partager ma foi. « C'était surprenant. Parce que combien de fois, Sarah et moi, nous avons tous essayé de nous engager, de partager notre expérience avec le Seigneur, avec beaucoup de monde. Nous avons une liste des gens. Je vous propose déjà de préparer une liste. Demandez au Seigneur de vous donner une liste des personnes avec lesquelles vous voulez partager votre foi et de prier pour ces gens. Ça, c'est déjà quelque chose. Si vous n'avez pas en tête, si vous n'avez pas du tout une idée de partager votre foi, vous allez rater beaucoup d'occasions, j'imagine. Hein? Ça, c'est sûr. Hein? C'est un petit peu comme un examen qu'on se prépare pas, on se prépare pas pour. Vous n'aurez pas de réponse si vous n'avez pas étudié avant. Mais selon certaines statistiques dans notre monde aujourd'hui, il y a plus de 6,783,500,000 hommes qui habitent sur la Terre. Ça fait beaucoup, hein? La population de la France, c'est quoi? 58 millions? C'est ça? Combien? 60, déjà 60. Ok, très bien. Par tout renseignement qui est accueilli par ceux qui font des études chrétiennes et de société, sociologues, il y a un tiers de toutes ces populations qui sont ou qui se dit chrétiens. Un tiers de plus de 6 billions de monde sur notre terre d'aujourd'hui. Mais de ce tiers de personnes, ils s'appellent chrétiens pour toutes sortes de raisons. Vous imaginez? Politique. Je sais qu'en Allemagne, il y a un groupe de politiques qui s'appellent des chrétiens. Est-ce que c'est des chrétiens en eau? Moi, j'en sais rien, mais pour les politiques, je m'en doute. Parfois, il y a des gens qui s'appellent chrétiens à cause de leur pays de naissance. Il y a beaucoup de monde qui pense que si vous êtes né en Occident, vous êtes chrétien. Je sais que beaucoup de monde pense que tous les gens aux États-Unis, ce sont des chrétiens, soit des protestants, soit des catholiques. Déjà, ce n'est pas correct, hein, d'être chrétien comme ça. Beaucoup qui s'appellent chrétiens à cause de leur pratique religieuse. Et beaucoup s'appellent chrétiens parce que, comme la dame hier soir, oui, elle a dit, je suis catholique parce que on m'a fait baptiser quand j'étais petit. Peut-être je peux vous poser une question plus précise maintenant pour chacun de nous. Pourquoi êtes-vous chrétien? Comment êtes-vous devenu chrétien? Et la personne qui est à votre droite ou votre gauche, est-ce que ce sont des chrétiens, des chrétiennes? Et celui devant vous ou pas derrière? Comment vous imaginez ils sont? Comment vous savez? Est-ce qu'il vous a jamais porté une parole particulière comme leur engagement avec le Seigneur? Oui, mais ils sont là tout le temps. Ça ne va pas, ça. Et souvent, on se trompe nous-mêmes dans le sommeil du fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont perdus et nous Si on vous demande, est-ce que vous êtes concerné? Peut-être que oui, mais est-ce que notre vie manifeste vraiment un intérêt? De prier, au moins, d'avoir une liste des gens pour lesquels on prie. Dans cette statistique, avec le tiers qui s'appelle chrétien, pour toutes les raisons que je viens de citer, ne parlons pas de ceux qui sont vraiment des croyants engagés avec le Seigneur, des professants, ça laisse quand même 4,5 billions de gens dans le monde aujourd'hui qui ne s'appellent pas ou qui ne s'appelaient pas chrétiens pour toute raison imaginable. Je voudrais citer plusieurs versets, d'abord qui, peut-être vous le connaissez, mais je crois que ça vaut la peine quand même d'y regarder ensemble, chapitre 1 de Romains. Commencez à verset 16. Avant verset 16, Paul a commencé à parler de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ et comment l'Évangile est la puissance de Dieu. Quand on parle de l'Évangile, ça peut inclure beaucoup de choses. Mais nous venons justement ce matin de chanter plusieurs cantiques qui soulèvent l'idée de l'Évangile dans notre vie. De rendre gloire à Dieu, de louer le Seigneur, de connaître ce Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés, de recevoir le pardon de Jésus. Nous avons ces chansons qui nous dirigent dans les chants de le message de l'Évangile. Mais il y a beaucoup de monde qui n'a pas cette connaissance, qui n'a pas cette possibilité de louer Dieu. Ils ignorent, pour une raison ou d'autre, tout de l'Évangile. Et justement, Paul nous donne des idées de connaissance de Dieu et la parole de Dieu, un jugement pour nous vis-à-vis le monde aujourd'hui. Romains chapitre 1, verset 16, il dit « Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. » Donc Paul, il ne laisse aucune question de « D'abord, c'est les Juifs qui ont reçu la première parole de Dieu, mais les non-Juifs aussi. » Ça, il faut être clair. Hein? Souvent, on a des doutes parfois, est-ce que les gens dans le monde, est-ce qu'ils sont vraiment perdus? Est-ce qu'ils sont vraiment séparés de Dieu? Comment ça peut se passer? Parce que peut-être s'il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, alors là, peut-être même... Moi, j'ai parlé avec les gens hier soir dans le parking, j'ai dit, mais dans un sens... L'Évangile n'était pas partagé avec eux, si vous voulez, dans un sens. Pas de façon que je le connais. Donc, où sont les gens comme ça? Où sont vos voisins, peut-être, qui, vous imaginez, peut-être qu'ils ne vont jamais à l'église? Personne dans leur famille ne leur a jamais raconté la vérité. Paul continue. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit de l'Écriture, les justes vivraient par la foi. Par la foi. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Vous voyez ce que ces versets sont en train de le dire? Même les gens qui n'ont pas entendu exactement comme nous le savons la parole de Dieu vis-à-vis Jésus-Christ, même s'ils n'ont pas entendu l'évangile qu'on appelle l'évangile de Christ, ce sont des gens qui sont perdus. Ce sont des gens qui sont des non-croyants. Ils sont perdus. Ils sont séparés de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de question. Ce n'est pas nous qui le jugent. C'est la parole de Dieu qui révèle cette vérité. Ils ont rejeté l'amour de Dieu. Ils ont rejeté la révélation de Dieu. Je vais donner un exemple précis. Récemment, nous avons pu faire un petit voyage en vacances et on a pu voir quand même beaucoup de paysages, même ici autour de nous. Et souvent, même avec nos voisins ici où nous habitons à Issoir, j'ai pu constater le fait que si je ose dire oui, je crois en Dieu, est-ce que Dieu m'éveille, de fait qu'il a créé tout ça? Est-ce que la beauté de Dieu est très, très jolie là? Vous savez comment y réagir? Un petit peu comme mon œil. Pour moi, tout ça, c'est une preuve que les hommes ne veulent pas croire en Dieu. Ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Ils ne veulent pas accepter la vérité de Jésus en principe. C'est leur nature de rejeter la vérité. Et peut-être il y en a ceux parmi nous ce matin qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous êtes comme moi. À l'origine, l'homme naturel, notre désir, c'est de diriger notre propre vie. Nous ne voulons pas croire et accepter Dieu et sa vérité. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle ça ce matin même. En parole. Continue, Paul dit en verset 21, « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leurs pensées dépourvues d'intelligence. Il se trouvait dans l'obscurité. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu, le Dieu immortel et glorieux, ils adorent les idoles, les images d'hommes, les oiseaux et ces mots-là, des quadrupèdes, comment ça se prononce là? Quadrupèdes, merci. Ou des reptiles. Combien de fois vous remarquez dans le monde aujourd'hui combien les gens, ils admirent leur structure qu'ils ont fait avec leurs mains. Mais moi, quand je regarde ces choses, je m'éveille et je dis, mais quand même, c'est Dieu qui leur a donné l'intention et l'idée de le faire. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui nous donne la capacité de faire toutes ces choses. Pourquoi pas lui rendre gloire ? Avec tout ça, au lieu de se rendre gloire aux hommes, il continue. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur et qui les porte des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont déshonoré leur propre corps. Ils ont délibérément échangé la vérité, attention, c'est encore Dieu qui parle, ou Paul qui écrit la parole de Dieu. Ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu pour le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Lui qui est loué éternellement. Amen. Vous voyez, les conditions des hommes, c'est à la fois, ils sont complètement perdus, ignorants, et ils suivent un chemin ironique, incorrect, dans le mauvais sens. Ils sont perdus complètement, mais à cause de leur propre choix, à cause de leur propre engagement. On continue d'autres versets. Nous trouvons que tout le monde sont coupables devant Dieu. En Romains chapitre 3, versets 10 à 12, il n'y a pas un seul juste devant Dieu. L'Écriture nous dit, il n'y a pas un seul juste, même pas un seul. Il n'y a pas un homme qui est capable de comprendre, et il n'y a pas un homme qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés et sont corrompus tous ensemble. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien, non pas même un seul. Regardez aussi dans le Jean chapitre 3, excusez-moi, je continue versets 18, excusez-moi, en romain. À leurs yeux, le fait de louer Dieu n'existe pas. Or, nous le savons que l'Écriture dit dans la loi, elle adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il est ainsi pour personne n'a rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Dieu nous a donné la loi pour nous manifester, pour nous montrer justement on est coupable. C'est pour cela que je voulais soulever la verset tout à l'heure en Lévitique et le fait que je n'ai pas dormi bien cette semaine quelquefois. À cause du péché en moi, je laisse troubler les choses dans ma vie qui ne doivent être, qui ne doivent pas être. Je suis coupable moi-même du fait que parfois j'essaie de mettre Dieu à côté de ma vie, dans la présence de ma vie, et j'essaie de vivre ma vie sans son pouvoir sur moi et dans ma vie. Et Jean chapitre 3, verset 17, commence à nous enseigner beaucoup de choses. Jean chapitre 3, verset 17. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Donc, le message de Jésus-Christ est là pour sauver les gens, pas pour les condamner. Et nous avons justement ce message. Si vous croyez en Jésus-Christ ce matin et vous êtes sauvé par l'amour de Dieu en Jésus-Christ, vous êtes engagé avec Jésus-Christ, vous avez ce message. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas ce message selon la parole de Dieu. Verset 18, Jean nous éclaire encore plus. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas la foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance dans la personne unique de Jésus-Christ, de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Voyez encore, c'est un choix des hommes. À cause du fait qu'ils préfèrent de vivre comme le monde, ils ne veulent pas entendre la vérité. Je ne veux pas le préjuger. Mais j'ai rencontré un homme au marché il y a un mois. J'ai commencé simplement de raconter mon expérience dans le Seigneur. Bon, déjà, on ne commence pas. Pour moi, quand j'ai essayé de faire la connaissance des gens en premier, je n'essayais pas de taper sur la tête en demandant est-ce qu'ils sont chrétiens, est-ce qu'ils sont croyants, sinon ils vont en enfer. Moi, je ne dis pas ça en premier coup. Mais si ma presse, parfois, peut-être j'ai donné plus, mais bon. Ce monsieur-là, il m'a demandé, mais alors vous êtes américain, qu'est-ce que vous faites là? Il m'a déjà posé des questions, j'ai essayé d'éviter cette réponse tout directe parce que je ne savais pas combien il voulait savoir, donc je ne voulais pas quand même le buter trop rapidement. Donc, il m'a demandé la deuxième fois, mais vous êtes américain, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, bon, on va se lancer alors. Donc j'ai dit, bon, je suis un pasteur protestant et je suis là de témoigner de ma foi en Jésus-Christ. Et j'ai commencé d'expliquer qu'on cherche les gens qui s'intéressent de savoir encore plus, combien que j'aimais Dieu et qu'il m'aime. Et je crois que Dieu a donné Jésus-Christ pour me sauver de mes péchés. Mais d'un coup, alors là, comme ça, il ne voulait plus entendre parler. Je ne sais pas pourquoi, sauf j'ai vu une image de ce monsieur qui était vraiment mal à l'aise. Il ne voulait plus entendre parler de ma foi. Les hommes et les femmes, les gens de ce monde ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas louer Dieu. Ils ne veulent pas comprendre. Et j'ai bien peur que ce monsieur est un bon exemple à travers ses réactions. Parce qu'il n'y avait pas personne d'autre autour de lui. Hein. Il est parti pour parler avec quelqu'un d'autre. Il m'a laissé vraiment froid comme ça. J'ai eu rare des expériences comme ça, même en France, des gens qui partaient comme ça. Donc, les gens ne veulent pas croire. Quelque chose qui m'a frappé aussi, ce qui se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Et si notre évangile demeure voilé, il n'est pas que pour ceux qui vont à la perdition. Il est facile quand même de rencontrer les gens que peut-être qui sont à la recherche de la vérité. Il est facile plus ou moins de reconnaître assez rapidement les gens qui s'intéressent de savoir encore plus. Oui, je n'ai pas de temps maintenant, mais j'aimerais bien encore discuter avec vous. C'est ça que la famille m'a dit hier soir. Il a mis, ce que vous dites nous intéresse beaucoup et ça nous intéresse d'encore discuter encore. Mais bon, il ne voulait pas me donner le nom. Bon, ça va. On va prier que le Seigneur nous donne encore l'occasion de le rencontrer, espérons. C'est un sujet de prière. Verset 4, pour les incrédules, le Dieu de ce monde, c'est ça qui est très important là, pour nous de comprendre. Les gens qui sont perdus, parfois, ils ne savent pas pourquoi ils sont perdus. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont pris une décision, mais ce n'est pas simplement une décision, mais c'est le fait que nous sommes en train de louer le Seigneur maintenant, nous sommes en train de partager la parole de Dieu, mais le fait qu'ils ne voulaient pas, c'est dans un sens, ils ont choisi de quitter la salle, fermer la porte. Ils sont aveugles à cause de leur choix. Écoutez-moi bien, faites très attention. Nous prenons tous des choix chaque jour. Et Satan, il est là pour nous rendre aveugles de ce qui se passe dans le monde du péché. Parce qu'il ne veut pas au moins que nous ne soyons pas des témoins de Jésus-Christ. Ah non, il ne le veut pas. Il ne le veut pas. Ils le rendent aveugle parce qu'ils ont pris une décision de vivre dans un monde qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Écoutez-moi bien, je ne dis pas tout ça pour les critiquer. Je vois tout ça vraiment comme surprenant. J'ai dit, mais Dieu, comment on peut faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se rendre auprès de ces gens pour les témoigner? Je vous dis tout de suite, il n'y a pas une seule clé. Il n'y a pas une seule chose qu'on puisse dire. Mais il y a une chose, à mon avis, qui est très importante, primordiale, numéro un, notre relation avec Dieu en Jésus-Christ. C'est par là que nous avons le pouvoir et le savoir de confronter les autres avec la vérité de Jésus-Christ. Nous savons tous le résultat des péchés. Paul nous dit, tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a préparé un chemin pour ceux qui sont perdus. D'abord, vous lisez Paul en Romains, vous voyez tout de suite, Dieu nous a envoyé la loi dans l'Ancien Testament pour dévoiler justement nous sommes des pécheurs. C'est pour cela que ça me tressait quand même avec ces versets tout à l'heure en Lévitique chapitre 26. Toutes ces choses-là en disant, si vous obéissez Dieu à tout point de vue, vous allez ramasser toutes ces choses sans problème. Mais vous n'avez que vivre petit à petit dans ce monde de se rendre compte avec les difficultés que nous avons dans nos vies parfois. On n'est pas parfait, nous. Et nous avons besoin de l'amour de Dieu constant et actif dans nos vies. Comment faire alors pour témoigner auprès des autres? Je parlais déjà de notre relation avec Dieu en Jésus-Christ. Je voudrais vous citer deux choses. D'abord, vous lisez, je vais lire les textes, vous ne cherchez pas maintenant, mais vous pouvez le noter, le lire plus tard. Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. C'est Dieu qui rentre dans le jardin d'Éden après le péché d'Adam et Ève. Au moment de la brise du soir, qui rafraîchissant quand même à cette période-là, très frais, c'est très bien avec la chaleur de journée. Mais à ce moment-là, au moment de rentrer du brise du soir, ils entendirent l'Éternel parcourant le jardin. Alors l'homme et femme se cachaient de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Est-ce que vous vous cachez ce matin de Dieu? Est-ce que vous avez même préparé vos pensées et votre vie de venir à l'église ce matin? Ou est-ce que vous êtes venu tout bouleversé avec toutes les idées, ce qu'on va faire, tout ce qui se passait, chargé de toute votre vie, mais vous n'avez rien demandé à Dieu de vous préparer, de le louer, de le saisir, et qui vous prendre en charge lui-même de vous diriger. Mais l'Éternel l'appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu ?» Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur, car je suis nu. Alors, je me suis caché. » Je ne veux, pas être indiscrète, mais ça joue quand même quelque chose de très, très, très pratique. À tout à l'heure, il y avait un des parents que j'ai remarqué qui voulait reprendre leur enfant. Peut-être, moi je n'ai pas remarqué ce qu'il faisait, mais appeler l'enfant de venir auprès d'eux tout à l'heure avant le culte commencer. En lui appelant par nom, l'enfant finalement a décidé d'aller envers les parents. Il dit, mais quoi? Et le papa disait, tu sais bien quoi? Parfois Dieu nous appelle à travers les difficultés dans la vie, à travers les incidents avec des autres, surtout parfois avec des frères et des sœurs en crise qui nous rapprennent en disant, il ne faut pas faire ça, on ne fait pas comme ça. Dieu nous appelle par notre nom et nous on se cache parce qu'on est pris dans les événements qui nous emmènent en dehors de la volonté de Dieu. Restez-tu près du Seigneur? Criez le Seigneur qui vous garde tout près de son cœur, qui vous donne le cœur pour les autres. Deuxièmement, faire attention de votre relation avec votre prochain. Il est toujours plus facile de témoigner auprès des autres qui se rendent compte quand même que vous êtes différentes, au lieu des autres qui vous disent, peut-être ils ne vous disent pas, mais ils disent aux autres, mais ils sont comme tous les autres. Il n'y a rien de différent. Cette fameuse histoire, bon, raconte, c'est le couple, la famille hier soir m'a dit, vous savez, les chrétiens, s'ils doivent être vraiment engagés avec Dieu, ils ne doivent pas vivre. Mais on connaît une dame qui va à l'église tout le temps. Et qu'est-ce qui est méchante? Alors là, on ne veut rien avoir avec ça. Vous connaissez cette histoire. Que le Seigneur nous garde avec notre contact avec les prochains. Que ce soit avec les personnes avec lesquelles on travaille, ou les médecins, les garagistes, les gens au magasin, les caissiers. Notre famille spirituelle en Jésus-Christ, est-ce que notre conduite les uns avec les autres est pure, claire et nette, que le Seigneur puisse prendre gloire à travers notre activité quotidienne. Notre époux et notre épouse, dans la famille, nos enfants, est-ce que nous dirigeons nos enfants avec l'amour et avec bonne cause pour la grâce de Dieu? Quelque chose que je trouve très important, c'est notre emploi du temps. Cherchez d'abord le royaume. Nous avons chanté combien de fois ce cantique? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice et toutes ces choses sera données encore plus. Je voudrais terminer avec deux choses. 2 Corinthiens, vous notez ce verset, 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. Chapitre 2 Corinthiens 2, 14 et 15. Je ne puis que remercier Dieu, il nous a associés toujours au cortège triomphal du Christ. Par notre union avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum de connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de la mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de la vie qui conduit à la vie. Qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Paul est en train de dire, au fur et à mesure qu'il nous remplit la vie, qu'il est dans notre vie, nous sommes des témoins auprès des autres, soit pour des croyants, un encouragement de continuer, pour des non-croyants, nous sommes un exemple de la jugement de Dieu. Ça, c'est tout naturel. Il y a quelque chose qui est noté là, en verset 14, il parle de le cortège triomphal du Christ. Il y avait une pratique dans le Nouveau Testament, dans le passé, où les Romains, quand ils sont allés en guerre, ils sont retournés en ville. Et ils ont fait une parade avec toutes les choses qui se passaient pour manifester leur joie et leur victoire. Sachant que tout le monde peut-être ne pouvait pas assister à la parade, ils ont allumé des feux dans le village pour que ça passe un parfum, une odeur de victoire. Voyez-vous ce que Dieu est en train de nous dire? Notre vie doit être remplie de l'Esprit de Dieu d'une façon que nous sommes une odeur devant les autres. Notre relation avec Dieu en Jésus-Christ est très importante. Paul nous cite de continuer de travailler notre salut dans notre vie, faire preuve de notre salut dans notre vie, de laisser le Saint-Esprit agir en nous pour que nous soyons comme Christ et que son pouvoir agit en nous. Prions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes paroles. Aide-nous, Seigneur, en acceptant la célébration de Sainte-Cène. Nous sommes prêts nous-mêmes de nous engager par l'amour pour les autres et par notre amour pour toi, de partager l'évangile de Jésus-Christ aux autres. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.